cet événement de la vie du Christ est un événement qui est étonnant et à bien des égards déconcertant. Et dans l'usage slave, c'est toujours le dernier dimanche après la Pentecôte, mais pas dans l'usage grec. Mais là, nous suivons l'usage slave. Et c'est vraiment une très belle chose. Vous allez comprendre facilement pourquoi. Parce que le Seigneur, il est juste à la fin de sa montée vers Jérusalem. Et cet événement est très, très instructif pour nous tous. Il nous indique pour qui le Seigneur va mourir. C'est pour tous, pour tous les pécheurs. Je vais regarder tout à l'heure. Le Seigneur est tout à fait à la fin de sa vie publiée. Il entreprend sa montée vers Jérusalem. Il passe par la Pérée, qui est de l'autre côté du Jourdain. Il revient en Judée. Il traverse le Jourdain et juste, il y a Jéricho. Alors Jéricho, c'est en dessous du niveau de la mer. Et quand on est à Jéricho, j'y suis allé. On voit une montagne extraordinaire, une muraille, c'est Jérusalem. C'est l'ancienne Jérusalem, c'est dans les hauteurs. Alors Jéricho symbolise le monde déchu. Ça, c'est Nièvre, c'est le monde déchu. Jérusalem symbolise le ciel. Vous vous souvenez, dans la parabole du bon samaritain, le Seigneur il dit c'est vers Jéricho. Et on est en dessous du niveau de la mer. C'est la ville. Alors, il faut d'abord dire que quand le Seigneur se déplace, il y a une foule énorme. Alors, il vient à Jérusalem pour mourir et ressusciter. Il y a les 12 apôtres qui sont là, on va dire, d'une façon sacramentelle. Parce que c'est à eux qu'il va confier l'Église. Il y a certainement les saintes femmes, probablement Marie, mais vous avez remarqué que Marie est discrète, c'est une femme discrète. Elle est toujours dans ces événements, mais on ne la nomme pas. Parce que l'Évangile n'est pas une affaire de famille. Le Christ est venu sauver l'homme avec un H majuscule. Il y a les saintes femmes, certainement, et puis il y a beaucoup des autres disciples, les 72 disciples, peut-être tous d'ailleurs. Et il y a la foule, quand il arrive. Le Christ est un grand personnage. Le Rabbi Yeshua de Nazareth, c'est le plus grand personnage d'Israël. On ne parle que de lui. Jamais dans l'histoire humaine, on n'a entendu un homme parler comme lui. Et jamais dans toute l'histoire humaine, on a vu ce qu'il fait. Il guérit des malades incurables, il ressuscite les morts, il marche sur la mer. Et il multiplie les pains. Jamais. C'est un homme incroyable. Il faut que nous ayons conscience de cela. Et la foule est là. La foule le presse quand il entre à Jéricho. Ça, c'est le tableau. Et puis, il y a pas dans cette foule, ailleurs, un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, en hébreu, c'est pur. Alors là, il n'est pas pur. Il va le devenir par la grâce de Dieu. Il est le chef des publics. Alors, les publicains, c'est une corporation de gens qui prenaient la ferme des impôts indirects. Ils avançaient l'argent à l'État romain et ils prélevaient eux-mêmes les impôts indirects. C'était des péagers, on pourrait dire. Parce que là, c'est des petits publicains, ce n'est pas les grands. Ce n'est pas ceux qui affirment la globalité de l'impôt, si vous voulez. Ce n'est pas comme nos fermiers généraux du XVIIIe siècle. C'est des petits publicains. Mais comme. Jéricho, c'est un centre très important. C'est sur la route de Jérusalem, il y a beaucoup de monde. Il y a une corporation des publicains. Il est le chef de cette corporation des publicains. Les publicains, c'est des gens haïs par les juifs, parce qu'ils touchent l'argent impur. L'argent impur, c'est l'argent sur lequel il y a l'image de l'empereur qui se fait adorer comme un dieu. Il ne faut jamais oublier cela. C'était la plus grande des impuretés et des idolâtries. Jamais l'oublier. Donc l'argent est impur et il touche l'argent impur. Et en plus, ils sont des bandits. Ils s'avancent à l'État romain, puis ils prélèvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc ils sont détestés. Et c'est des gens riches qui mènent une grande vie dans un style hellénique, pas du tout juif. Ils ont des beaux habits, des parfums, des bijoux. C'est style nouveau riche. Alors, au fond, cet homme-là, il pourrait rester tranquillement dans son coin. Il vit bien. Qu'est-ce que ça peut lui faire pour cette foule? Puis ce rabbi de Nazareth. Au bout du monde. une chose très très intéressante. Enfin, on pourrait dire d'un homme comme lui, à notre époque, c'est des libres penseurs, ou c'est des athées, ou des gens qui s'en fichent. Mais voilà, il se passe une chose merveilleuse, très instructive. Il se dit, c'est qui ce rabbi? Il se pose la question du rabbi Yeshua. C'est intéressant. Il pourrait ne pas se poser la question. Nous avons des centaines de milliers de gens autour de nous qui ne se posent pas la question de Dieu. Ils s'en foutent. Ils se posent la question, et non pas de ce qu'il est, ni de ce qu'il représente sociologiquement, quelle est sa pensée. Pas du tout. Qui est Jésus? Qui? Qui, c'est une personne. Et il veut voir qui est Jésus. C'est la question de l'homme depuis que nous avons été exclus du paradis. Voir Dieu. Il veut voir Jésus. Il veut voir Dieu. C'est la seule obsession légitime de l'homme, comme disait l'évêque Jean. Voir Dieu. Qui est Jésus? Vous avez remarqué, et nous allons y revenir, que à cet effort intérieur qu'il fait, va répondre l'attention de Dieu. Entre son questionnement et sa volonté de voir qui est Jésus, il va y avoir le regard de Dieu sur lui. C'est la synergie, c'est la rencontre des deux. Mais seulement, c'est pas facile d'aller voir le rabbi Yeshua. C'est un grand personnage. Il y a une telle foule, impossible de l'approcher. Il y en a devant, il y en a à côté, il y en a derrière. Pas l'approcher. Alors, il aurait pu se dire au flûte. Ben non, il ne se dit pas flûte. Il est petit. Vous êtes petit, vous ne voyez rien. Hein. Les gens du fond de l'église ne voient pas ce qui se passe à l'hôtel. C'est pour ça qu'on surélevait les hôtels. Tout le monde voit. Alors, il pourrait se dire, eh ben non, il va lutter. Il est petit, mais intelligent. Il a des bonnes jambes. Il réfléchit. Il dit, il va passer par ici, par là. Il calcule, il dit, il va passer là. Il court, la foule, ça c'est là. Ça marche pas dans des foules. Il court, ils vont ainsi comme mort. C'est une sorte de figuier sauvage, il y a des branches basses. Puis, pof, il grimpe en haut là. Il dit, je vais pas rater. Et il ne rate pas. Et le Seigneur passe par là. Alors voilà, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Lui, il est venu voir. Il veut voir pour son Jésus. Mais c'est Jésus qui le voit. C'est Dieu qui le voit. Immédiatement, le Seigneur regarde. Il le voit. C'est extraordinaire. Le regard de Dieu se pose sur lui. Formidable, merveilleux, sublime. Chaque être humain peut se dire, il m'a vu, peut-être me verra-t-il. Mais encore faut-il vouloir le voir, encore faut-il lui ouvrir la porte. Le Christ le regarde, Zachée, hâte-toi de descendre. Il n'a jamais rencontré Zachée, mais Dieu sait tout. Zachée, il l'appelle par son nom, hâte-toi de descendre. Vous avez vu comme c'est beau? Le figuier symbolisait la loi chez les juifs, et là c'est un figuier sauvage parce que lui c'est un juif décadent. Descends vite de l'arbre de ta richesse extérieure, de ton éloignement de la vérité, de ton orgueil, descends, viens te mettre au niveau de l'humilité divine. Moi je me suis incarné, moi je suis Dieu, descends. Pour monter sur la colline de Jérusalem, la montagne, il fallait d'abord descendre. Il faut d'abord faire le repentir. Descendre. Zachée se dépêche de descendre. Il n'a qu'un chez lui. Quelle merveille. Le rabbi le plus célèbre d'Israël qui entre dans la maison d'un publicain. Scandale! Scandale! Les juifs ne parlaient pas aux publicains. On ne les touchait pas! On n'avait pas le droit d'aller manger chez eux. C'était comme des lépreux. Et non, petite conversation, comme toujours très très bienveillante, Ah, il avait l'air bien, ce rabbi, mais finalement, il n'est pas si bien que ça. Il va me chercher des impurs. Vous savez, les gens, mauvaise langue. On murmure, la foule. Zachrin a reçu avec joie. Ça a changé sa vie. Il a rencontré Dieu. Il n'a pas raté la rencontre de sa vie. Tout le monde murmure, des petites bisbilles. Et alors Zachrin se rend bien compte qu'il introduit un trouble dans le monde, dans la société juive. Parce que lui, l'impur, il a reçu le Messie. Et alors il fait un acte de contrition extraordinaire. Il fait un repentir public qui montre qu'il a fait son repentir intérieurement. Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Mais il est très riche. C'est une fortune qu'il donne. Je donne aux pauvres. Je fais comme toi, Seigneur. T'es riche et tu donnes. Puis il va plus loin. Si j'ai fait du tort en quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus, au quadruple. Si j'ai volé 100 euros, j'en rends 400. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme ça. Les États qui souvent se conduisent mal avec les citoyens ne font pas ça. Quand ils nous escroquent, je rends 4 fois plus à ceux à qui j'ai fait du tort. Non seulement il se repent, mais il essaye de réparer sa faute. Il a un vrai repentir. Et alors le Seigneur dit cette phrase sublime, ce logion, parole sortie de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et la maison, c'est la maison Pierre, et c'est le cœur de cet homme. La vraie maison, c'est notre cœur. C'est là où la divine Trinité veut habiter et nous demande d'habiter. C'est le temple intérieur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Mais il a ouvert la porte. Ne serait pas entré s'il n'avait pas ouvert la porte. Et le Seigneur ajoute cette phrase merveilleuse. Car celui-ci que vous regardez comme un être pur, il est aussi fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il a aussi l'image de Dieu. C'est vrai, il a chuté, mais il s'est repenti. Il a aussi l'image de Dieu en lui. Quelle leçon! Et le Seigneur ajoute en conclusion, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous vous souvenez qu'à un autre moment de l'Évangile, il avait dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, parce qu'on disait, il va voir des gens de rien. Qui va avec les prostituées, il va voir les publicains. Il a dit, mais je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Quelle leçon pour nous! On pourrait dire que c'est le triomphe de l'esprit sur la lettre. Combien souvent les ecclésiastiques dans l'histoire se comportent comme les juifs? On préfère les règles à la vie. Mais ce qui importe, c'est la rencontre de chaque personne avec Dieu. Et nul ne connaît les secrets des cœurs. Seul le Saint-Esprit connaît les secrets des cœurs. Et toute personne peut faire la démarche de Zachée. Le Christ nous enseigne ici, personne n'est perdu pour toujours. Quelle belle leçon. Nous allons commencer l'ascension de la montagne de Jérusalem dimanche prochain. On ne tiendra pas, 70 jours plus tard. Mais le Christ, il est venu pour ces gens-là, pour nous qui sommes des pécheurs, pas pour des justes. Les justes, à la limite, n'ont pas besoin parce qu'ils ont déjà justifié. Il est venu pour nous, les injustes, les pécheurs. Et il nous apprend que personne n'est perdu pour toujours. Car le Seigneur veut sauver tous. Tous sont son image. Ce qu'il y a de plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans l'homme? C'est pas qu'il soit ceci ou cela, c'est pas qu'il soit riche, c'est pas qu'il... C'est chaque homme est l'image de Dieu malgré la chute. Ça, c'est sublime. C'est le grand trésor de l'homme. La conclusion que je veux faire, surtout, plus que tout ça, ça dépendait de Zachée de faire ce chemin ou pas. Chacun est responsable de lui-même. Il ne faut pas rater notre rencontre avec Dieu et à lui soit la gloire pour les siècles des siècles.